Écoute un métier, le podcast qui te permet de construire ton avenir sur Radio Campus Tours. Salut, c'est Camille. Bienvenue dans ce tout nouvel épisode de podcast. Le mois de septembre est déjà bien entamé. J'espère que la rentrée s'est bien passée pour tout le monde. J'ai eu la chance de côtoyer plusieurs journalistes durant le mois d'août et j'en ai donc profité pour interviewer l'une d'entre elles. Aujourd'hui, mon invitée est Valérie Pernette, directrice adjointe de rédaction départementale à La Nouvelle République. Nous allons découvrir ensemble l'envers du décor du métier de journalisme ainsi que le fonctionnement d'une rédaction. Je te souhaite une bonne écoute. Valérie Pernette, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice départementale adjointe à La Nouvelle République depuis 2 ans.
Oui, c'est ça. Je suis en poste ici depuis octobre 2022.
Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs ce qu'est le journal de La Nouvelle République et un petit peu son histoire ?
Alors, le journal La Nouvelle République est issu de la Résistance. Le premier numéro est sorti le 2 septembre 1944. On fête cette année les 80 ans. C'est quand même une belle histoire déjà. Le journal a été lancé par nos fondateurs qui s'appellent Jean Meunier et Pierre Archambault, qui étaient des résistants. Et on s'inscrit aujourd'hui toujours dans cette notion et en faisant de la presse quotidienne régionale et locale. C'est notre cœur de métier.
Est-ce que vous pouvez développer un petit peu plus sur la différence entre un journal local et un journal national ?
Alors, je dirais que le journal local est avant tout ancré à son territoire. On s'intéresse aux gens qui sont ici, en Indre-et-Loire, pour ce qui nous concerne, à Tours, même si la Nouvelle République est présente sur d'autres départements. Mais on s'intéresse à ce qui se passe sur notre territoire et aux acteurs de notre territoire. Mais dans la Nouvelle République, on a aussi des pages nationales et internationales et on donne aussi l'actualité plus générale à nos lecteurs.
Donc le siège est basé à Tours, mais vous avez bien entendu d'autres bureaux à d'autres villes du département, comme par exemple Chinon, Loches peut-être ?
Oui, bien sûr. Alors on est présent, on a 2 bureaux détachés à Loches et Chinon, les villes sous préfecture. On a aussi un journaliste qui est en poste à Amboise. Et le gros de l'effectif, le gros de la rédaction est à Tours.
Est-ce que les journalistes détachés dans votre journal, ils ont le même poste, les mêmes responsabilités que quelqu'un qui serait justement à Tours, au siège ?
Alors chacun a des missions un peu différentes et un terrain de jeu, si je peux dire, un peu différent. Mais en tout cas, un journaliste est un journaliste, un rédacteur est un rédacteur, qu'il soit à Tours ou à Chinon. Son but est de collecter et de traiter l'information locale, donc c'est un peu équivalent, c'est juste le terrain de jeu qui change.
Nous allons revenir un peu plus à vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer votre parcours professionnel ?
Alors moi, j'ai commencé à La Nouvelle République comme correspondante de presse. Être correspondant, c'est possible quand on est étudiant, quand on est salarié ou quand on est retraité. En fait, on a un statut, c'est pas de l'auto-entrepreneur, enfin, ça n'existait pas d'ailleurs à l'époque, mais c'est un statut d'indépendant et on écrit des articles dans le journal, on va sur le terrain faire des reportages, on écrit des articles dans le journal. Donc moi j'ai été correspondante de presse dans ma région d'origine, la Saône-et-Loire, puis après quand je suis venue à Tours faire mes études à l'IUT de journalisme à l'époque, c'était donc en 2003-2006, de 2003-2006, je suis venue donc dans la région pour l'IUT et j'ai rencontré la Nouvelle République. Je suis devenue correspondante locale et puis après j'ai été recrutée en CDD, puis en CDI et voilà, progressivement j'ai évolué au sein de l'ANR, j'ai fait toute ma carrière à la Nouvelle République.
Certains de nos auditeurs ne savent rien du tout sur le métier de journaliste, est-ce que vous pouvez juste m'en dire un peu plus sur la différence entre un correspondant, un journaliste et un pigiste aussi ?
Alors, un correspondant, c'est vraiment quelqu'un qui... On a souvent l'habitude de dire que ce sont nos yeux et nos oreilles sur le territoire. On en a vraiment dans tout le département, dans tout notre territoire. Ils sont partout, mais ils sont indépendants. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de lien de hiérarchie avec la rédaction de l'ANR. Ils font, quand ils le peuvent, quand ils le veulent, des articles sur ce qui se passe chez eux. Un journaliste est un salarié de l'entreprise. Donc, lui, il a des comptes, entre guillemets, un peu plus de comptes à rendre à l'entreprise. Et un pigiste, c'est un journaliste qui est indépendant, mais qui a la carte de presse. Donc, c'est un journaliste.
Très bien. Est-ce que vous pouvez expliquer donc quelle formation vous avez suivie et ce que vous avez appris lors de vos études ?
Donc, j'ai fait l'école de journalisme de Tours. Alors, à l'époque, c'était une licence professionnelle. Donc, j'ai fait 3 ans de formation. On apprend les bases du métier, la collecte et le traitement de l'information, comment aller chercher et vérifier une information, comment rédiger, comment mettre en scène. Et puis, on a aussi beaucoup de culture générale. Il faut avoir de bonnes bases en culture générale. Il faut savoir un peu tout sur tout. En tout cas, être assez ouvert d'esprit. Et on apprend, on avait des cours de droit, d'histoire, sciences politiques, voilà, c'était assez varié en IUT. Puis on apprend aussi les techniques entre plus matérielles, comment utiliser nos logiciels de traitement de texte ou de montage vidéo ou de montage son, parce qu'on est formé à tout ça à l'IUT de Tours.
Un journaliste local, lorsqu'il est embauché, doit-il en savoir un peu plus sur l'histoire de la ville, un peu plus en profondeur, l'histoire de la ville où il travaille ou de la commune où il est?
Alors c'est toujours un plus de connaître son territoire, mais j'ai envie de dire qu'un jeune journaliste peut arriver dans une région qu'il ne connaît pas avec son regard neuf et de la découvrir en fait. Le rôle d'un journaliste, c'est de rapporter ce qu'il voit, ce qu'il entend. On n'est pas obligé de tout savoir avant en fait, on apprend pour transmettre.
Pouvez-vous expliquer dans les grandes lignes le parcours type pour devenir journaliste et s'attarder un peu plus aussi sur les écoles reconnues ?
Alors, il n'y a pas vraiment de parcours type, même si effectivement les écoles reconnues, c'est quand même la voie la plus simple pour finir par accéder au métier. Mais il n'y a pas forcément de parcours type. Il y a des journalistes qui peuvent faire des facultés ou des études spécifiques et qui peuvent après être journaliste dans un secteur particulier. On peut devenir journaliste scientifique après avoir fait des études de sciences. Donc, en fait, il n'y a pas forcément de parcours type. Il y a beaucoup de spécificités finalement dans le métier. Mais les écoles reconnues, c'est quand même effectivement une voie un peu royale, quoi.
Oui, donc en France, il y a 14 écoles reconnues, mais il est donc possible de passer par une autre école non reconnue, par exemple, ou un parcours plus spécialisé. Par exemple, vous avez pris l'exemple des sciences. Est-ce qu'à l'ANR, il y a des gens qui ont été embauchés alors qu'ils sortent d'écoles non reconnues ?
Ah oui, il y en a, c'est à peu près certain. Après, chez nous, nos journalistes sont quand même tous plus généralistes que des journalistes de niche comme les journalistes scientifiques. Donc la plupart ont fait des écoles reconnues ou des écoles de journalisme. C'est possible, on en a, c'est certain, mais c'est quand même plus simple d'accéder au métier via une école de journalisme.
Existe-t-il des journalistes qui sont donc assez généralistes, mais qui peuvent avoir une petite spécificité ?
Oui, alors on organise effectivement le travail un peu comme ça, avec des référents. C'est-à-dire un journaliste qui va suivre en particulier les questions d'éducation, un journaliste qui va suivre en particulier les questions de santé, les faits divers, l'économie. Donc oui, il y a des référents, mais on est tous très polyvalents.
Qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier ?
Moi, ce qui me passionne, c'est la transmission, l'échange. On est des transmetteurs. On voit, on entend des choses, on apprend des choses et on les partage. On les passe, on est des passeurs. C'est ce qui me plaît le plus.
Vous êtes des passeurs d'informations et peut-être aussi le contact avec les gens.
Oui, la rencontre, c'est très important pour nous, surtout en presse quotidienne régionale. Je trouve qu'on a besoin de créer du lien aussi. C'est ce qui me plaît, la proximité, créer du lien entre les gens, faciliter les échanges aussi au sein des villes, parce que finalement, quand on annonce dans une commune qu'il va y avoir telle ou telle fête, quand on dit que telle ou telle association organise un événement, finalement, c'est pour créer du lien et se rassembler.
Un journaliste local doit quand même avoir un petit peu plus de temps d'adaptation pour justement se créer un réseau, un lien avec tous les acteurs locaux. Là où un journaliste national pourra peut-être un peu plus se reposer sur les contacts déjà présents, c'est ça ?
Oui, c'est ce qu'on peut aussi. C'est aussi lié à la proximité, ça. Effectivement, en proximité, progressivement, on crée notre réseau, on crée nos contacts, nos interlocuteurs privilégiés qu'on va connaître au fur et à mesure des semaines, des mois, des années. Donc ça, c'est effectivement quelque chose qu'on cultive en presse quotidienne régionale. Et c'est très différent, effectivement, les échanges qu'on a avec le terrain et les interlocuteurs.
Quelles sont les tâches quotidiennes d'un journaliste ?
Eh bien, au quotidien, on va chercher... il faut qu'on soit en éveil sur tout ce qui peut se passer. Donc au quotidien, il faut être très à l'écoute du territoire, alors au sens premier du terme, regarder ce qui se passe dans la rue et puis regarder ce qui se passe maintenant sur les réseaux, être à l'écoute de tout ce qui peut se passer, finalement avoir les yeux ouverts tout le temps. et être aux aguets sur tous les sujets qui peuvent émerger dans la société, localement ou plus nationalement. Écouter l'air du temps.
Donc un journaliste, il essaye de pêcher des informations, de trouver des sujets de reportage, il réalise son reportage, il prend des contacts, il fait des recherches, il écrit ses articles, c'est ça ?
C'est ça, il va chercher l'information et puis ensuite il la rédige, enfin en l'occurrence chez nous on l'écrit, mais on peut aussi la mettre en image avec les vidéos, les photos, mais l'essentiel c'est quand même l'écriture, on l'écrit pour que ce soit lu après sur le site ou sur, dans nos colonnes papier, mais effectivement c'est aller chercher une information et la retranscrire.
Les journalistes ici ne doivent peut-être pas travailler seuls, il doit aussi y avoir d'autres personnes pour les accompagner, comme des photographes par exemple.
Alors, à la rédaction d'Indre-et-Loire, on a deux photographes, effectivement, avec nous, qui vont sur le terrain en plus des rédacteurs. Mais les rédacteurs sont polyvalents aussi dans la technique et ils sont aussi photographes, ils prennent aussi leurs propres photos et font même les vidéos parfois.
Et quelles sont vos tâches quotidiennes à vous ? Car, on le rappelle, vous êtes directrice adjointe.
Alors, moi, au quotidien, je réceptionne, je centralise un petit peu toutes les informations qui peuvent nous arriver par mail, par téléphone, par courrier encore un peu. Je veille un peu sur tout ce qui se passe et ensuite j'organise le travail de la rédaction, c'est-à-dire que je dispatche un petit peu les sujets en accord et en concertation avec l'équipe. Hein, je ne fais pas ça toute seule, mais voilà, on se pose souvent la question, est-ce qu'on traite ce sujet-là, et quelle place on lui donne dans le journal, est-ce qu'on fait quelque chose de court, de long, et ensuite, tout au long de la journée, j'organise ça, et le soir, très concrètement, je décide de ce qui va être à la une du journal papier, et tout au long de la journée, je décide ce qui va être à la une du site internet. Donc en fait, c'est ce qu'on appelle la hiérarchie de l'information.
Vous êtes donc un peu moins sur le terrain. Est-ce que cet aspect professionnel ne vous manque pas trop ?
Alors, le terrain est quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé pendant 15 ans. Après, aujourd'hui, effectivement, j'en fais beaucoup moins. Je trouve un équilibre différemment. De temps en temps, je peux y aller. C'est toujours un plaisir. Mais c'est une autre façon d'appréhender le métier, oui, de ne pas être sur le terrain.
Lorsque l'on est journaliste, on ne compte pas ses heures. Séparer la vie pro de la vie perso est-il difficile ?
C'est pas facile, ça demande beaucoup de sacrifices. On est un peu journaliste à temps complet dans le sens où on peut toujours être amené à voir des choses qui peuvent ensuite faire un article. Maintenant, il faut savoir couper quand on a besoin, donc c'est possible quand même. Mais oui, c'est un métier qui est assez... c'est un métier passion, je dis souvent, c'est un métier passion, donc il faut aimer pour le pratiquer. Un certain nombre d'heures par jour.
Comment faites-vous justement pour les jours fériés ou les week-ends ?
Alors, la Nouvelle République paraît quasiment tous les jours, sauf quelques jours fériés dans l'année. Donc, effectivement, on travaille 7 jours sur 7. On a une organisation qui nous permet de travailler tout le temps. Les équipes tournent. On travaille quasiment tous un week-end par mois, certains beaucoup plus. Je pense aux rédactions sportives qui travaillent plus souvent le week-end ou aux rédactions dans les bureaux détachés où ils travaillent presque un week-end sur deux. Donc oui, on travaille, on a une organisation qui fait qu'on travaille 7 jours sur 7. Les jours fériés inclus, ça fait partie du métier, ça fait partie des contraintes, on le sait dès le départ. On travaille à Noël et comme le journal sort le 26 décembre, il faut travailler le 25.
Quelles sont la place justement des syndicats dans les presses ?
Comme dans tous les métiers, il y a des représentants syndicaux, il y a différents syndicats qui sont représentés. Nous avons des élus qui défendent les intérêts des journalistes en ce qui concerne la rédaction, mais aussi des autres salariés de la Nouvelle République. Ça, c'est comme dans toutes les entreprises, mais avec peut-être un regard déontologique plus important, plus fort.
Oui, parce qu'il y a peut-être un peu plus une histoire derrière le syndicat au niveau des journalistes.
Oui, c'est ça. Ils sont aussi les garants des règles de déontologie, je trouve.
Justement, je me demandais comment est-ce que fait un journaliste lorsqu'il est attaqué ? Est-ce qu'il y a des droits ? Est-ce que le droit français protège bien la presse et les journalistes en général ?
Alors, il y a plusieurs choses qui nous protègent, mais on peut être attaqué. Après, en presse locale, c'est pas très régulier, mais effectivement, la liberté de la presse, le droit de la presse protège les sources, etc. Donc, on est quand même assez protégé.
Justement, comment arrivez-vous à gérer les situations difficiles avec les personnes qui ont des revendications envers votre rédaction ?
Alors, ça nous arrive effectivement de gérer des personnes mécontentes, fâchées, etc., ben on dialogue beaucoup, on dialogue, on écoute, enfin moi en tout cas j'écoute, et puis après, on en discute collectivement, on réfléchit sur quelle position adopter, mais le dialogue, je pense que c'est la clé.
Est-ce que vous avez un exemple concret à nous donner ou pas du tout ?
Un exemple, il y en a beaucoup, mais c'est difficile de donner un exemple particulier. Là, il n'y a pas longtemps, j'ai écrit un billet qui n'a pas plu à ceux qui étaient cités dedans. Mais c'est notre liberté de ton, et je leur ai expliqué cela. Voilà.
Avez-vous déjà eu des journalistes qui ont été face à des menaces de mort, par exemple ?
Alors ça, dans l'histoire de Liner, il y en a déjà eu, mais moi, je n'ai jamais eu à en connaître directement depuis que je suis à ce poste. Mais oui, on en a déjà eu, notamment via les réseaux sociaux. Ça peut arriver, ça.
C'est surtout les réseaux sociaux, c'est ça, peut-être moins des... Avant, je sais que ça se fait un peu plus par lettres. Maintenant, la violence se fait un peu plus via Internet.
Oui, c'est plus là où on peut être attaqué. Après... localement, j'ai pas d'exemple trop violent, récent en tout cas. Heureusement.
Heureusement, oui. Y a-t-il des contraintes auxquelles vous deviez faire face et auxquelles vous n'étiez pas préparé lorsque vous avez commencé ?
Des contraintes. Non, après, je connais le métier depuis longtemps maintenant, donc non, je vois pas de contraintes particulières surprenantes.
Quelles sont les qualités nécessaires à un bon journaliste ?
Je pense que la première des qualités, c'est d'être curieux. D'être curieux et d'être ouvert d'esprit, de pas être enfermé dans des idées préconçues, d'être ouvert d'esprit, je trouve que c'est très important, d'être curieux, et puis d'avoir la passion des autres, la passion des gens, d'aimer les gens, je pense que c'est important, pour pouvoir les écouter et ensuite transmettre.
Le journaliste est-il un milieu bouché ?
C'est pas un milieu facile d'accès, mais je sais pas si on peut dire que c'est bouché non plus aujourd'hui. J'ai pas un regard très macro là-dessus, mais je pense pas que ce soit un milieu bouché.
Ça dépend peut-être des régions de France aussi, ou si on veut travailler à Paris ou en province ?
Oui, c'est sûr que c'est très différent, et ça dépend aussi des médias. Mais il y a encore des opportunités aujourd'hui pour devenir journaliste.
A contrario, quels sont les points positifs du métier ?
Je trouve que le point le plus positif, c'est la grande liberté qu'on a dans le choix des sujets qu'on peut aborder, la grande liberté qu'on a dans le traitement. Ça, c'est vraiment... je pense qu'il n'y a pas beaucoup de métiers qui offrent une telle liberté d'expression.
Un journaliste, donc, est-ce qu'il peut choisir souvent ses sujets de reportage ou c'est un peu plus rare, c'est plus la rédaction qui le lui impose ?
Les deux cas de figure sont vrais. Ça dépend des moments de l'année, ça dépend des périodes, mais globalement, les journalistes sont assez libres. Mais collectivement, disons qu'on choisit collectivement des sujets. Donc parfois, il y a des sujets qui sont entre guillemets retoqués parce que c'est pas le moment, parce que. Mais oui, il n'y a pas. Certains sujets sont imposés par la rédaction et par l'actualité surtout. C'est l'actualité qui guide nos choix surtout.
Je me suis toujours demandé comment une rédaction peut-elle décider des prochains articles, surtout sur le temps long. Est-ce que ça se fait sur le temps long ou sur un temps plutôt court ?
Alors, ça dépend quel sujet. Il y a des sujets sur le temps très long, comme notre fil rouge cette année, c'est l'ANR s'engage face sur l'environnement, sur les questions d'environnement, la Touraine face aux défis climatiques. Ça, c'est quelque chose qu'on a décidé sur le temps long, puisqu'on s'est réunis, on s'est dit, bon, cette année, qu'est-ce qu'on veut mettre en avant tout au long de l'année ? Donc on s'est dit qu'on allait faire des sujets environnement pour sensibiliser un petit peu les consciences et éveiller à ces questions-là, donc sur tout au long de l'année. Donc on a un rendez-vous tous les mois autour de la question environnementale avec des thématiques différentes chaque mois. Donc ça, c'est sur le temps long. Mais au quotidien, on réagit tout le temps sur le temps court et sur l'urgence par rapport à ce qui se passe dans l'actualité locale, nationale. On rebondit parfois. Donc en fait, on a un peu deux vitesses. On a des sujets qu'on prépare en amont, qu'on anticipe, et des sujets sur lesquels on réagit très vite. Et quand je dis très vite, c'est parfois dans le quart d'heure, quoi. Donc, euh, on a, On a c'est des fois pas facile, hein. Notre cerveau, il est un peu partagé entre il faut être très réactif et de l'autre côté, il faut aussi préparer des choses sur le temps long.
La réactivité se fait surtout au niveau des faits divers.
Oui, évidemment. Évidemment, c'est sur cet aspect-là qu'on doit être le plus réactif et les faits divers ou des choses un peu qui peuvent être plus liées ou pas, mais des choses comme des travaux, des axes bouchés, des circulations, des choses un peu pratiques. On doit être aussi assez réactif.
Au niveau des faits divers, est-ce que vous avez des journalistes qui sont plutôt spécialisés ou est-ce qu'ils tournent ?
Alors, sur la rubrique des faits divers, on a ici en avril deux journalistes qui sont vraiment dédiés à cette chronique-là, qui est très particulière et qui demande un lourd investissement, un réseau et des connaissances techniques au sens vocabulaire, au sens... il y a quand même vraiment... C'est assez particulier comme matière. Donc oui, là, ils sont vraiment dédiés à ça. Mais ils sont dédiés à ça en ce moment. Ils ne seront pas dédiés à ça peut-être toute leur vie.
Oui, bien sûr. Au niveau de la rédaction d'un article, donc une fois que le journaliste vient de l'écrire, est-ce qu'il est relu ensuite par combien de personnes ? Est-ce qu'il y a un temps aussi de relecture ou c'est plutôt par le nombre de personnes qui le relisent ?
Alors, le temps, ça dépendra du sujet, mais en tout cas, il est toujours relu. On a le service des éditeurs qui est chargé de la relecture, de la mise en forme de l'édition des articles, donc qui publie ensuite. Et puis, il peut être relu par les pilotes de la rédaction, l'encadrement de la rédaction, en fonction, mais bien sûr, tout est relu.
Avez-vous des conseils à un jeune qui souhaiterait devenir journaliste ?
Le premier conseil que je donnerais, c'est de s'intéresser aux médias dans sa région, dans son coin, de lire les journaux auxquels il peut avoir accès, tous les journaux auxquels il peut avoir accès, de regarder de s'informer. C'est le premier conseil, c'est d'être hyper informé pour entrer dans le métier, savoir ce qui se passe dans son territoire, dans son pays. Et puis éventuellement d'aller frapper aux portes parce que d'aller faire des stages, d'aller devenir correspondant. Ce serait mon conseil, de créer un petit journal dans son lycée, dans son collège, d'être proactif en fait. Ça marche d'ailleurs dans tous les métiers. Plus on est proactif, plus on peut apprendre, tester et puis du coup aussi voir si ça nous plaît.
Et pour vous, quel est le sujet que vous avez réalisé qui vous a le plus intéressé ?
Ça, c'est une vaste question parce que j'ai quand même fait beaucoup de choses et comme on est très polyvalent, j'ai fait plein de choses.
Vous pouvez m'en dire plusieurs ?
Je me suis beaucoup amusée quand je dis amusée, c'est parce que je me suis amusée quand j'étais en Loir-et-Cher, rédactrice en Loir-et-Cher, je faisais beaucoup de sujets autour des sites patrimoniaux, des sites touristiques, je suivais ces questions-là, j'allais beaucoup en reportage à Chambord, à Beauval, où j'ai nourri les animaux, ça c'était rigolo. C'est des choses un peu ludiques, mais ça c'était très amusant. J'ai eu le plaisir de sauter en parachute un jour. Enfin, c'est très varié. Et à côté de ça, j'adore aussi suivre toutes les élections. C'est toujours passionnant à suivre les élections politiques, qu'elles soient municipales, législatives, cantonales. Ça, c'est toujours des moments de tension, mais c'est toujours des moments vraiment intéressants localement à suivre. C'est très différent. Mais c'est ça qui me plaît, moi, de passer de choses légères à des choses plus sérieuses, plus graves.
Oui, même en journal local, il y a des choses un peu hors du commun que l'on peut faire en tant que journaliste, comme sauter en parachute. Est-ce que vous avez d'autres idées ?
Ah oui, pour le coup, on peut... Là, tout à l'heure, j'ai demandé à un jeune journaliste d'aller faire un reportage sur un bateau. C'est vraiment très varié. Et puis, on rencontre des gens formidables et inspirants. Dans les dernières rencontres que j'ai faites, je me rappelle de Delphine Chéniaud qui a gravi l'Everest. Alors, je ne suis pas allée gravir l'Everest avec elle, mais elle a partagé à travers moi son challenge et sa passion. Et voilà, il y a vraiment des rencontres tellement variées.
Est-ce que vous avez un meilleur souvenir à nous faire partager avec votre équipe lors d'un reportage, une anecdote ?
Alors, j'en aurais beaucoup. Une anecdote, un souvenir. Là, dans les derniers souvenirs, dans les dernières anecdotes qu'on a eues à... Le dernier gros événement qu'on a eu à gérer, c'était les inondations le week-end de Pâques. Alors, on ne s'y attendait pas spécialement. Et c'est vrai qu'on a tous dû gérer ce gros fait divers. C'est un fait divers, les inondations. Et, Et avec l'équipe, on a réussi à collectivement se mettre en action pour donner le meilleur de nous. On a réagi, là, pour le coup, assez rapidement. On a déployé les moyens qu'on avait. On s'est organisé pour aller dans les endroits les plus stratégiques. Et c'était un chouette week-end collectif.
Eh bien, écoutez, Valérie Pernet, je vous remercie vraiment énormément d'avoir répondu à cette interview.
Ben, écoutez, merci Camille et bonne continuation.
Je vous remercie. Et surtout, pour ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de soutenir la presse locale en achetant le journal de la Nouvelle République. Je vous mettrai toutes les informations en description. C'est déjà la fin de ce podcast sur Radio Campus Tours. J'espère qu'il t'aura plu. Et n'oublie pas de t'abonner sur la page Instagram d'Écoute un métier. À bientôt.